Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi, qu'est-ce que la 5G? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Beaucoup de choses, beaucoup de théories, plus ou moins farfelues. Difficile de faire la part des choses souvent. Très concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à la 5G? Pour en parler, évidemment, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions, 0826 300 300. Pour en parler, Gilles Babinet, bonjour, vous êtes entrepreneur, vous êtes en charge des questions numériques à l'Institut Montaigne et vous avez été vice-président du Conseil National du Numérique.
Je suis toujours, en fait.
Vous l'êtes toujours? Ah bon? Parce qu'on m'a dit que c'était plus le cas depuis quelques jours.
Non,
vous
l'êtes toujours. Oui, en fait, c'est la fin de la mandature.
Donc vous l'êtes toujours pour l'instant. Ouais. Et maître Christophe Le Guévac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, créateur de la plateforme d'action collective MySmartCab et initiateur d'une pétition contre la 5G. Vous êtes à un peu plus de 60 000 signatures qui réclamaient plus d'informations sur la 5G.
Alors peut-être que un moratoire
complet pour le respect de la santé, principe de précaution, le droit à l'autodétermination, je lis ce qui est sur votre pétition. Peut-être, Gilles Babinet, commencer avec vous sur ce qu'est la 5G, que nos auditeurs comprennent exactement ce qu'est la 5G et quels sont les enjeux. Voilà, okay. Vous avez 2 heures.
Merci, voilà. C'est ce dont j'avais besoin.
Non, succinctement.
Bon, la 5G, c'est ce qui vient après la 4G, c'est... je dirais qu'en 10-12 ans, on a vu qu'on pouvait améliorer un certain nombre de techniques pour faire en sorte que ça marche mieux. Mais il y a une rupture conceptuelle assez forte. C'est-à-dire que, aussi bien en ce qui concerne les équipements au sol, les antennes, les logiciels, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de différences entre la 5G et la 4G qu'entre la 4G et la 3G, par exemple. Et une caractéristique qui est importante, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est être extrêmement polyvalent pour pouvoir servir aussi bien les objets connectés que des équipements qui seraient à haute besoin de bande passante.
Et la 4G ne suffit pas aujourd'hui, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer à la 5G?
La 4G est d'une certaine manière en phase de saturation. Mais d'accord. Les premiers volets, vous savez, vous avez 16 versions de la 5G, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Les premiers volets de la 5G sont très proches de ce qu'est aujourd'hui la 4G. La grosse différence, c'est que vous allez émettre des licences pour les opérateurs, vous allez émettre du spectre, en fait, attribuer des fréquences. Mais sur le plan technique, au début, ça va être assez semblable. Ça va diverger dans les versions ultérieures qui permettront notamment... au plein potentiel de la 5G de s'exprimer.
Donc en gros, ça permet d'aller plus vite, d'avoir plus de... Ce sont des tuyaux qui sont plus gros,
oui,
et qui permettent
de
transporter plus d'informations.
Mais si vous voulez, ça c'est ce qu'on réduit en général.
Oui,
et notamment, le débat porte beaucoup sur effectivement le débit, qui... va permettre de faire des usages pas forcément très utiles.
Oui, genre regarder le porno dans l'ascenseur.
Oui.
Je
débat ce soir avec lui, d'ailleurs, à la télévision. Ouais. Mais, si vous voulez, ce qui me semble vraiment important de comprendre, c'est que l'enjeu, c'est d'arriver à traiter non plus... d'avoir un ratio peut-être 100 à 1000, voire un peu plus, en termes de possibilités de connexion d'objets différents.
De 100 à 1000, d'accord.
Oui, c'est difficile à dire à ce stade. Moi, j'ai des interactions, pour ainsi dire, quotidiennes avec des gens qui sont des chercheurs sur la 5G et qui disent que les versions finales de la 5G ne sont pas stabilisées. Mmh. Ça bouge encore et donc c'est assez difficile de répondre précisément à ça.
Mmh. Alors, qu'est-ce que vous reprochez, maître, à la 5G?
Déjà, c'est un problème démocratique. On avait un engagement fort du président de la République qui était de respecter les engagements pris par devant la Convention climat. Mmh. Et la Convention climat a décidé à 98% qu'il fallait faire un moratoire. Et là, on s'assoit sur cette décision. Ensuite, il y a un problème relatif à l'innocuité. Je suis inquiet d'entendre dire que ce n'est pas encore stabilisé. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore savoir avec précision quels pourront être les effets sur la santé. Alors qu'il existe déjà des études qui démontrent qu'un usage intensif du téléphone portable 4G est en soi dangereux, notamment pour les ados et pour les enfants. Donc il y a des questions de santé qui sont à l'ordre du jour. Puis il y a aussi une question...
Enfin, pardon de vous interrompre, est-ce que vous pensez vraiment qu'un gouvernement, ou que des gouvernements, puisqu'il y a d'autres pays qui ont déjà la 5G, mettraient en difficulté la santé des citoyens au profit
Sans problème. Sans problème quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de contrôle des sociétés. L'un des véritables enjeux de la 5G, c'est en fait d'aller vers une société toujours plus sous surveillance.
Mais là, vous mélangez tout. Vous mélangez vous mélangez la santé. Oui. J'essaye de comprendre. Je n'ai pas d'opinion faite sur les choses, mais vous mélangez à la fois la santé et...
vous me donnez les différentes raisons. Donc, je les énumère rapidement.
D'accord.
Donc, il y a la santé. Il y a aussi la question que c'est une nouvelle forme de société où on va être encore plus surveillé, puisque, comme vient de le dire M. Babinet, il va y avoir des objets connectés qui vont pouvoir interagir en permanence, ce qui pose un autre problème. Et on revient à la santé. C'est que ça crée un brouillard électromagnétique dont on ne sait pas aujourd'hui avec certitude qu'il est inoffensif. Donc on a cet élément-là, il y a ce problème de respect démocratique, respect des libertés. On voit bien que les grands bénéficiaires de ce chambardement, qui n'en est pas un vraiment, ça va être, un, l'État qui va pouvoir vendre des fréquences. C'est très utile en ce moment, puisqu'ils ont déjà programmé dans le budget de l'année prochaine l'acquisition des fréquences. Deux, ce sont les industriels qui fabriquent tous les équipements. Et là, il y a un gaspillage sans nom à la fois de matériel et d'installation. Et trois, ce sont aussi les GAFAM qui vont pouvoir récolter toujours plus de données sur nos comportements. Pour en faire quoi, on ne sait pas.
Enfin, ils les ont déjà, hein, les
mais ils en ont encore plus. Ils auront encore plus de données de santé, ouais, par exemple, puisque vous allez avoir tout qui va être interconnecté et qui va permettre de...
Mais ça l'est déjà.
Et ça sera encore plus.
Ben, encore plus une fois qu'on sait qu'on peut avoir votre dossier médical. Enfin, j'essaye encore une fois de comprendre.
Le dossier médical, vous n'y avez pas accès.
Quand vous allez tapez pour prendre des rendez-vous chez un médecin, un dermato, sur des plateformes sans citer de nom, ils savent déjà que vous
Mais ils doivent respecter leur GPD, ces plateformes. Donc elles peuvent pas sortir ces informations.
Oui. Normalement, on a fait nous une émission la semaine dernière sur le démarchage à domicile et en discutant, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui sont pas autorisées et on peut rentrer dans votre carnet d'adresses, dans vos numéros de téléphone. Donc il y a déjà une multitude, enfin c'est deux choses. Je voudrais juste qu'on vienne sur l'aspect santé. Effectivement, Gilles Babinet, la question qui se pose, c'est on attend des résultats définitifs et on va vendre des fréquences avant d'avoir ces résultats définitifs sur la santé. Qu'est-ce qu'on sait de cette 5G? C'est la principale crainte, les ondes, les effets sur la santé.
Oui, rien que ce sujet, ça mériterait, pense, une émission, au moins une émission à part entière. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en général, les fréquences qui sont utilisées sont à peu près les mêmes.
Que pour la 4G?
De la 2G, 3G, 4G, 5G, la 5G c'est différent, il y a un nouveau spectre qui est ouvert, mais ce sont les mêmes pour le reste, et qu'il y a 6,3 milliards de personnes qui utilisent la téléphonie mobile dans le monde. Donc si on avait des enjeux épidémiologiques de masse, ça se saurait. C'est impossible de ne pas le voir. Il y a un certain nombre d'études épidémiologiques qui concernent les usages du smartphone qui apparaissent. Il y a des cas d'usage extrême qui ont été relevés, mais pas comme quelque chose de majeur, comme quelque chose de potentiellement incident. Il y a absolument pas d'augmentation, par exemple, des cancers, de ce type de pathologies, qui sont vus dans les études. Il y a une grosse étude, notamment financée par l'Union européenne, qui s'appelle Interphone, qui est une étude épidémiologique sur une cohorte de à peu près 4000 personnes, qui dure depuis 11 ans, et qui a été reconduite. Pour le moment, Interphone fait sortir des choses, mais qui sont absolument pas du domaine qui devrait nous inquiéter. Sur la 5G en particulier, ce qui est intéressant, je pense que ça mérite d'être dit, c'est que, si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure de la pluridisciplinarité des usages, c'est-à-dire le fait que quand vous êtes dans le rural, vous n'avez pas besoin du même faisceau que quand vous êtes à l'intérieur, dans une usine, par exemple. C'est pas les mêmes fréquences, c'est pas la même façon d'interagir avec le terminal. La 5G, elle permet ça. Qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes de santé? Enfin, peut-être pas de santé, mais effectivement, ça rayonne moins. C'est-à-dire, vous prenez beaucoup, beaucoup moins de radiation.
C'est-à-dire que la 5G est moins dangereuse que la 4G, ça vous l'affirmez.
Et dans ces versions ultérieures, on va mettre en place des antennes qu'on appelle MIMO, qui sont des antennes directionnelles. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous êtes proche d'une antenne radio, c'est comme si vous étiez proche d'un abat-jour. Ouais. Ça rayonne dans toutes les directions pour pouvoir attraper le terminal où qu'il soit. Avec les antennes MIMO, c'est plus l'effet lampe de poche. Vous éclairez dans la direction du terminal. En conséquence de quoi, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, d'irradier
les autres personnes.
Et c'est une des caractéristiques, mais le fait d'avoir des nanocelles, c'est-à-dire beaucoup d'antennes, on pourrait dire oui, mais maintenant on va être irradié tout le temps. En réalité, la conséquence des nanocelles, c'est que vous allez jamais avoir de surexposition, puisque vous allez être émis, vous allez être à proximité d'antennes qui, au lieu d'émettre des watts, vont émettre des dizaines de milliwatts. Donc pratiquement des quantités d'énergie qui sont celles d'un Bluetooth qui porte à quelques dizaines de mètres. Donc voilà. Et ça, je crois que si on mesure l'exposition reçue en termes d'énergie dans un réseau 5G à architecture déployée, vous allez nécessairement être dans un rayonnement qui est très sensiblement inférieur à ce qu'ont été 2G, 3G, 4G à ce jour.
Oui. Alors, plusieurs observations.
La première, c'est que l'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme cancérogènes possibles. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quand même quelque chose de sérieux. L'étude que
pourquoi
vous
ça n'a jamais été prouvé, justement, depuis le temps ? Parce qu'on a eu peur du micro-ondes, on a eu peur de la 2G, de la 3G, à chaque fois qu'il y a des...
On a pris des précautions et on a demandé à ce que le plus possible, on utilise le téléphone à une certaine distance, puisque la problématique des ondes 3G, 4G, c'est plutôt la proximité et qui crée un effet de chauffage, de thermique, comme on dit, qui s'ajoute aux effets électromagnétiques. Donc, première chose, l'OMS dit que ce n'est pas aussi exempt de risque que ça. Deuxième élément, je n'ai pas trop bien compris l'histoire de la lampe de poche, parce qu'on a tous une lampe de poche dans la poche, justement, c'est notre téléphone portable. Donc, si tout le monde utilise son téléphone portable en 5G, il va quand même y avoir plein de réseaux multidirectionnels qui vont se croiser, et donc ça va avoir le même effet que l'effet abat-jour, soi-disant, de la 4G. Ou alors, je n'ai rien compris, mais il faudra peut-être m'expliquer ça en détail.
Pas forcément,
c'est... Ben, à terme...
Oui, mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça.
Ben, c'est-à-dire que... Beaucoup, beaucoup moins.
Sur le rayonnement, sur la puissance du rayonnement.
Alors, on ne parle pas de la même chose.
Ça se mesure de façon radioélectrique.
Là, vous parlez de la puissance. Monsieur parlait, lui, du fait qu'on allait avoir une espèce de faisceau orienté simplement dans la direction de l'appareil qui reçoit ou qui émet. Donc, si tout le monde, dans une ville, on est très nombreux à avoir ce même petit appareil, il va y avoir une concentration des faisceaux. Et je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si ça ne va pas avoir le même effet que pour les autres, mais je trouve que l'explication qui semble simplement plaisante, oui, non, mais certes physique, mais elle est plaisante, je demande à vérifier. L'autre élément que je voulais évoquer aussi...
Juste une question là-dessus, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'études ? Vous dites l'OMS dit que peut-être, pourquoi il n'y a pas d'études qui affirment clairement que les ondes sont dangereuses ? Il n'y a pas une étude...
Les cancérigènes probables, il y en a plein.
Oui, c'est ça.
Voilà, le sucre est un cancérigène avéré. Voilà, et vous avez des aliments sur lesquels on a des doutes. J'ai plus la liste. Mais qui sont des cancérigènes...
Oui, pour répondre à votre question.
Ça dépend
pourquoi
de la quantité
d'émissions. Oui, pourquoi il n'y a pas
d'études ? Qui fait les études ? Qui les finance ? Premièrement. Les agences dites sanitaires ou spécialisées dans la gestion des ondes ne sont pas suffisamment indépendantes des industriels.
L'ANSES, par exemple, n'est pas indépendante.
On a des études on a des décisions judiciaires en Italie. La Cour de cassation italienne a considéré que l'utilisation intensive d'un téléphone portable sur une oreille était la cause d'une tumeur cérébrale. Et à cause de cela, a condamné l'opérateur et le fabricant à indemniser la personne qui avait cette tumeur. D'ailleurs, ça me fait penser...
C'était de la 5G ?
C'était la 4G. Ça me fait penser que puisque vous dites que la 5G, c'est complètement inoffensif, il y a peut-être une chose qui pourrait rassurer les Français, qui serait de dire, lors de la prochaine Assemblée Générale de tous les opérateurs téléphoniques, ils prennent l'engagement d'indemniser, sans discussion, toutes les personnes qui pourraient démontrer qu'ils ont été affectés directement par la 5G.
Comment vous le démontrez ? Vous développez un cancer, qu'est-ce qui fait que c'est le sucre, les parabènes,
chaque cancer a sa spécificité.
Si vous non, vous savez pas.
La cigarette, ça...
Oui, il y a des gens, mais il y a des gens qui ont des cancers du poumon sans jamais avoir fumé.
Donc quand même plutôt rare.
Non, il y en a de plus en plus.
Ça, c'est le tabagisme passif, c'est pas la même chose.
Non, mais c'est comme par exemple, je fais une parenthèse avec la Covid. Si j'attrape le Covid demain, je vais pas dire. Enfin, je peux dire à mon employeur, j'ai été exposé parce que j'ai reçu des gens dans le studio.
Oui.
Qui va prouver que c'est bien là et pas au restaurant où j'étais hier ? Ce que je veux dire, c'est prouver l'origine d'un cancer, c'est pas possible aujourd'hui. Il y a des facteurs qui disent que le tabac favorise le cancer de la vessie, mais vous ne pouvez pas affirmer... Bah si, le tabac, je suis désolée, le cancer de la vessie, c'est principalement les fumeurs qui le développent. Donc c'est compliqué de prouver l'effet, que le cancer est lié à une cause.
Pourtant, il y a des expertises médicales qui permettent de le faire.
Ça sera... Bah non. Non, je ne pense pas.
On a suffisamment de dossiers en termes de pesticides, par exemple. Je peux vous parler du dossier chlordécone aux Antilles, où on a des tas de démonstrations qui sont faites, qu'il y a des personnes, notamment les travailleurs de la bananerie, qui ont été exposés au chlordécone de façon intense et qui ont pu développer, à cause de cela, des cancers.
Oui, parce qu'ils étaient dans un endroit précis avec ce truc-là. Maintenant, les ondes, elle est prouvée que les ondes ont donné un cancer.
95% de la population antillaise est contaminée par le chlordécone. C'est un autre sujet dont on ne parle jamais, mais je vous invite à aller regarder ce qui se passe de ce côté. Là aussi. Mais si on revient à notre sujet...
Oui, à d'autres sujets, oui.
On parlait de la santé, mais encore une fois, il n'y a pas que l'aspect santé. Il y a l'aspect, c'est presque un changement de civilisation. On nous prépare une civilisation de la surveillance systématique par des systèmes qui sont en plus... jusqu'à présent, d'origine chinoise. Je sais que WeWork a été mis un petit peu sur le côté, mais c'est une exclusion qui est temporaire et rien n'empêche que lorsque les Chinois vont faire les gros yeux, que tout d'un coup, le gouvernement, quel qu'il soit, revienne sur cette décision. Donc, rien n'est définitif dans la matière.
Gilles Babinet, pourquoi il y a cette montée, cette hostilité? Alors, on a entendu les arguments de monsieur, mais il y a beaucoup, beaucoup de théories autour de ça, même liées au Covid.
Oui, ça c'est un sujet qui est assez intéressant. Je vous avoue, moi je me suis pas mal intéressé au compteur Linky temps.
Il y a eu la même chose.
On a un phénomène qui est assez semblable et qui est toujours pas fini d'ailleurs.
Non.
Et je pense, là où je vous rejoins, c'est que, bon, ça aurait été souhaitable qu'il y ait un débat, en réalité. On a eu le temps de le préparer, puisqu'on sait que la technologie arrive. Et je pense que dans le contexte que l'on connaît, c'est-à-dire... où il y a un schisme de plus en plus notoire entre les territoires et les métropoles, il y a sans doute un certain nombre de personnes qui ont le sentiment de subir ces technologies sans avoir l'opportunité de pouvoir donner leur avis. C'est, je crois, un tropisme assez propre à notre nation qui est très verticalisée. Et donc, sur ce plan, je pense qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu...
Être plus dans la concertation. Alors, on a un auditeur qui voulait intervenir, Laurent, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Laurent.
Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Bonjour à vos invités.
Bonjour.
Voilà, donc en effet, j'écoutais attentivement ce que vous dites. Bon, pour être simple, les rayonnements du téléphone, ce sont des rayonnements qui ne sont pas ionisants, donc qui ne modifient pas vos cellules, hein, vous ne risquez rien, comme le micro-ondes, les plaques à induction, ou le réseau électrique même, qui nous entoure. Donc ça, le rayonnement, il n'y a pas de problème. Le seul rayonnement que ça peut produire, ça crée de la chaleur, en effet, c'est le téléphone posé sur l'oreille. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais vous n'allez pas attraper un cancer parce que vous avez l'oreille chaude, parce que vous téléphonez pendant une demi-heure. Ça, c'est sûr. Ensuite, autre chose, il faut vraiment que les Chinois, il faut se méfier des Chinois, bien sûr, et plutôt privilégier Orange et ou le Finlandais Nokia ou le Suédois Ericsson pour développer la 5G chez nous. Hein. Ce serait plus intéressant que ce soit européen que chinois. Bon, ça, moi, je pense que c'est important que notre industrie là-dessus soit dans nos mains. Et voilà, après, ce qui peut être dangereux dans ces systèmes, parce qu'il y en a, c'est de s'abrutir à regarder des films en boucle et à jouer à des jeux sans fin, et ça, c'est abrutissant. Et même dangereux si vous le faites en conduisant votre véhicule. Ouais. Certains regardent des films en roulant.
Oui, mais ça, ils le font déjà, mais, mais c'est vrai que ça fait partie, dans votre pétition, de transformer le réel en un Internet des objets gouvernés par des industriels dans leur propre intérêt, sans contrôle démocratique, c'est ce que vous dites. C'est cette société qui vous fait peur.
C'est une société, dans laquelle... on utilise le temps de cerveau disponible pour empêcher les citoyens de réfléchir et d'être des consommateurs. Et le mot consommateur, vous pouvez peut-être l'écrire en trois mots, parce que justement, on essaye de transformer les gens en des espèces décérébrées qui sont là que pour consommer, travailler, consommer. Et
sans libre arbitre et sans... Vous avez été publicitaire, Gilles Babinet.
Non, c'est mon cousin.
Ah, c'est
Rémi,
cousin
on me confond souvent avec lui. Ouais. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas que ce soit lié au réseau, à la nature des réseaux, mais...
Mais il y a ce risque-là aujourd'hui avec la 5G, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de possibilités d'informations, de propositions pour se connecter.
Voilà. C'est nous qui allons devenir des objets connectés, en fait. C'est nous.
Le risque sanitaire, il est là, en fait. Et il faut qu'on travaille dessus. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de régulation. On devrait imposer que... tous les fabricants de terminaux mettent des applications qui permettent de monitorer le temps qu'on passe avec potentiellement des alertes. Il y a un certain nombre de réflexions qui ont lieu à cet égard. C'est un risque de santé publique qui est tout à fait avéré. Il y a une augmentation aux États-Unis, je me souviens plus, je crois que c'est de 60% la dépression chez les adolescents en l'espace de 6 ou 8 ans entre 2010 ou 2012 et 2018. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont de nature à modifier profondément la psyché d'une société. Et on ne peut pas ne pas en parler. D'ailleurs, au sein de l'Institut Montaigne, on a un certain nombre de travaux sur ces sujets.
Autour de ça, la pétition, vous comptez en faire quoi? Vous allez la porter au pouvoir public, demander ce moratoire?
La pétition, c'est la phase 1 d'une action collective qui a été lancée et qui, elle, regroupe déjà plus de 5000 personnes. C'est-à-dire que maintenant, on va passer dans une phase offensive. On a mis en demeure les opérateurs de suspendre le déploiement. Ils nous ont répondu avec, comme d'habitude, beaucoup de mépris et de condescendance. Donc maintenant, nous allons saisir les différentes juridictions possibles, que ce soit en droit administratif pour contester les enchères ou en droit civil pour expliquer les dangers de ce produit. Je voudrais juste revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Vous nous dites que c'est très long de démontrer le lien de causalité entre tel produit et un cancer. Je prends un exemple qui est lié aux ondes. J'ai eu la chance de plaider un dossier Linky avec Corinne Lepage, qui expliquait qu'en 1979, elle se battait contre les lignes très haute tension, et à l'époque, on lui riait au nez en disant « c'est pas dangereux pour la santé, etc. » 40 ans plus tard, il a fallu attendre 40 ans, l'ANSES a émis un rapport l'année dernière pour dire « on recommande de ne pas installer d'écoles, de crèches ou d'endroits recevant des enfants dans une distance qui, je crois, est autour de 150 mètres de lignes très haute tension. » Il a fallu 40 ans pour arriver à la démonstration. Aujourd'hui, on en est au tout début, y compris sur la 3G et la 4G, on n'a aucune profondeur temporelle pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est là aussi la raison pour laquelle nous demandons sur la 5G de prendre le temps. On n'est pas des amis, on n'est pas des gens qui veulent le retour à l'âge des cavernes. On veut simplement un débat citoyen.
D'accord. Merci. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. J'espère qu'on vous a éclairé un petit peu. J'ai pas le sentiment que nos auditeurs, ils étaient tous campés sur des opinions et ils n'en ont pas changé, c'est-à-dire une défiance vis-à-vis de la 5G. C'est très tranché. C'est un débat extrêmement compliqué. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.